vous m'en direz tant ?
Un mot est arrivé sous les projecteurs de l'actualité politique, séparatisme. Il n'est pas réellement nouveau, avec comme sens un peu vague, tendance à la séparation. Mais c'est sa définition qui vient de se préciser. Dans l'esprit de ceux qui l'ont porté sur le devant de la scène politique, il s'applique à des groupes d'individus qui tentent de vivre regroupés dans certains endroits selon des règles qui ne sont plus les lois de la République. Dans le viseur, l'islamisme. Selon notre président de la République, suivi par le ministre de l'Éducation nationale et quelques intellectuels, il y aurait des endroits où la charia aurait pris le pas sur le droit républicain. On connaissait depuis longtemps le communautarisme, qui est le regroupement de communautés ethniques, religieuses, linguistiques, dans des pays où elles sont minoritaires. Cela s'observe partout dans le monde. Et dans de grandes villes, il y a des quartiers juifs, arabes, chinois, turcs. Mais il y a aussi des quartiers d'affaires, des zones commerciales, des quartiers où certains métiers dominent. On se rassemble pour des raisons de commodité et personne ne se pose la question de savoir si les grands groupes financiers internationaux qui se pressent dans certains quartiers de Londres respectent bien les lois locales. Pour beaucoup de pays, le communautarisme est plus ou moins la solution à des problèmes de racisme ou d'intolérance. Le mot « ghetto » est apparu il y a des siècles, à Venise, pour désigner un quartier où les Juifs étaient rassemblés et avec eux des métiers particuliers que le reste de la population n'exerçait pas volontiers, comme le prêt d'argent, par exemple. C'était moins pour les soustraire à la vue de tous que pour mieux savoir où les trouver lorsqu'on en avait besoin. Rien à voir avec les ghettos modernes qui ressemblent plus à des sortes de prisons. En dehors de nécessités professionnelles, il est naturel de rechercher tout simplement la promiscuité avec des gens qui nous ressemblent, avec qui partager une langue natale, une culture. Qui se ressemble s'assemble, dit la sagesse populaire. Le problème est né du nombre important d'émigrés que notre pays a reçus et qu'il prétend intégrer. L'intégration est un peu une spécificité française. Des gens viennent travailler chez nous, ils sont utiles, respectueux des lois, mais cela ne suffit pas. On voudrait qu'ils deviennent comme nous, qu'ils se mettent à penser comme nous, qu'ils oublient, miraculeusement, tout ce qui les a nourris dans leur enfance. Le mot « intégration » est proche de « désintégration ». Et ces gens pour qui le dépaysement ne peut qu'être un traumatisme, ont des enfants qui donc sont automatiquement français et qui sont censés recevoir la même éducation que tous les autres. L'école de la République est là pour mener à bien cette tâche. Mais il n'y a pas que l'école dans la vie d'un enfant, il y a aussi la famille, les voisins. Ces enfants profitent donc d'une double éducation qui, en principe, devrait être une richesse, mais qui est regardée d'un œil suspicieux par une partie de notre classe politique. J'ai connu une époque où, dans les campagnes, les enfants parlaient français à l'école, mais écoutaient leurs parents parler patois, parfois breton, catalan, basque. Ça se passait très bien, et même si le breton ou le catalan ne leur était pas très utile à l'âge adulte, ils pouvaient contribuer à nourrir leurs pensées. On observe généralement que les enfants dont les parents sont d'origine différente deviennent tout naturellement bilingues, ce qui est un net avantage à notre époque de mondialisation forcenée. Des enfants qui vivent au Maroc dans leur famille et en France à l'école devraient en principe en tirer bénéfice. Mieux vaut avoir deux cultures qu'aucune. Mais une partie de la culture est la religion. Chez nous, la religion chrétienne, longtemps dominante, a été mise au pas et les lois divines ont le bon goût de s'effacer derrière les lois de la République. Elles sont d'ailleurs pour l'essentiel compatibles puisqu'elles puisent pour beaucoup aux mêmes sources lointaines. La religion musulmane n'est pas toujours arrivée à ce stade. Si la grande majorité des musulmans de France vivent en respectant la loi républicaine, quoi qu'ils en pensent, certains prétendent faire valoir la suprématie de leur loi religieuse sur les nôtres. C'est ça, l'islamisme. Et ce n'est que cela qui reste un phénomène marginal, qui n'est pas réellement un problème de société, mais juste un problème de droit. Si c'est un séparatisme, alors les délinquants sont des séparatistes. Les insoumis seraient théoriquement des séparatistes, bon, mais là, il ne s'agit que d'une façade. Les dérives sectaires, excellent exemple de séparatisme, illustrent bien le problème. Les sectes ne sont pas interdites. On peut penser ce que l'on veut, vivre comme on l'entend, se regrouper par affinité de pensée ou de mode de vie. Ce qui est poursuivi est la dérive, c'est-à-dire la tendance de telle ou telle secte à enfreindre la loi. Les concerts sauvages ou rave parties correspondent au désir de se regrouper, si possible en grand nombre, autour d'un certain type de musique. Ce n'est pas considéré comme du séparatisme et n'est mollement sanctionné que dans la mesure où cela peut troubler l'ordre public. On pourrait, à la limite, parler de dérive sectaire. Serait-il possible de qualifier de séparatistes certains groupes de supporters de clubs de foot? Ils se rassemblent autour d'une passion sommaire, mais forte. Ils en font une sorte de loi qui s'oppose, surtout autour des stades, aux lois nationales. Mais si le séparatisme est un problème de société, quelles en sont les causes? Je pense que le principal acteur des tendances séparatistes est l'État lui-même. Il a presque totalement délaissé certains lieux, d'où les services publics sont absents, où la loi de la République n'est plus appliquée faute de moyens suffisants et de volonté. La nature ayant horreur du vide, l'absence de loi engendre inévitablement la survenue d'autres lois locales, tribales presque. La charia y supplante donc le droit républicain. Cela reste un phénomène local, et même si quelques illuminés rêvent d'étendre leur influence à l'ensemble du territoire national, ceux qui la suivent ne cherchent à nuire à personne. Ils demandent juste qu'on les laisse tranquilles dans leur coin. Comment accuser de séparatisme des gens qu'on a déjà séparés du reste de la population ? Ils sont séparés de l'emploi, ils sont privés de revenus donc, ils sont séparés souvent du logement, exclus de la solidarité nationale ordinaire. Et puis, quels sont les aspects de ces lois islamiques qui sont réellement incompatibles avec l'ordre français ? La place des femmes est le problème le plus choquant. Elles ne sont pas l'égales de l'homme, comme le proclame notre République. Mais se plaignent-elles ? Si cela vient à être le cas, la loi leur donne raison et les protège. Si elles ne se plaignent pas, pourquoi se plaindre à leur place ? Le cas n'est pas différent de celui des violences conjugales franco-françaises. Lorsque les victimes portent plainte, la loi se fait respecter. Lorsqu'elles ne disent rien, la loi ne se met pas en marche. Voilà, il est temps de nous séparer.